Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Quel a été le cheminement de Marie pour passer d'une enseignante classique à une adulte qui emmène ses élèves dans la forêt? Marie Petit est devenue une figure incontournable de l'école dehors en France, notamment à travers son compte Instagram à succès, Les Petits Écolos. Dans cet épisode, j'ai souhaité revenir sur le chemin que Marie a parcouru pour faire de la nature l'élément central de sa vie, d'enseignante mais aussi de mère et de femme. On a aussi pris le temps d'écouter tous ses conseils pour emmener encore plus ses enfants dehors, que ce soit à l'école ou à la maison. J'ai adoré ce moment. Je suis certaine qu'il en sera de même pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Marie.
Bonjour.
Ça faisait longtemps que je rêvais de t'avoir dans notre podcast, donc merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Tu es l'un des visages engagés dans l'écologie au sein de l'école, notamment à travers le contenu que tu partages sur Insta derrière le compte Les Petits Écolos. Tu as réussi à mêler deux passions dans ta profession, celui de l'écologie et de l'éducation. Et tu as depuis de multiples casquettes, directrice d'école, formatrice, conférencière et bien sûr auteur, puisque aujourd'hui je te rencontre dans le cadre de la sortie de ton livre aux éditions Le Duc qui s'appelle « Élever en plein air », que j'ai adoré. C'est un livre qui est très personnel, où tu racontes à travers ton parcours dans l'enseignement comment la nature s'est imposée à toi comme une nécessité dans ton quotidien, mais surtout celui des enfants. Tu démarres ce livre en parlant de l'enfant que tu étais. Et j'aimerais savoir pourquoi c'était important pour toi de revenir sur ton enfance pour parler de l'école dehors.
C'était important parce que je pense que j'ai oublié pendant très longtemps ma petite Marie, mon enfant intérieur à moi. Et je souhaitais aussi que le lecteur puisse reconnecter à son enfant intérieur pour ensuite, dans la suite du livre, pouvoir mieux comprendre son enfant ou ses élèves ou les enfants qu'il y a autour. Je pense que c'est très important de se rappeler qui on était quand on était enfant pour ensuite pouvoir trouver des solutions en tant qu'adulte, des solutions à mettre en place pour les enfants. Parce que c'est vrai que si on reste dans notre corps d'adulte, très souvent, on se dit « Oh, c'est des histoires d'enfants, oh, c'est bon, pas nous énerver pour une pince à cheveux ou pour sa copine avec qui elle s'est disputée. » En fait, on a tendance à percevoir les soucis des enfants comme étant des petits soucis parce qu'ils sont petits en taille, alors que si on reconnecte à notre enfant intérieur et qu'on se rappelle un peu de nos grandes peurs, de nos grandes angoisses. Moi, par exemple, au début du livre, je raconte que j'avais très peur de la mort. Ma sœur, elle m'avait raconté que mon cœur pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait. Toute mon enfance, une partie de mon enfance, j'étais extrêmement angoissée par ça. Et voilà, en fait, dans une vie d'enfant, les problèmes, les angoisses, les joies, etc., ne sont pas plus minimes que les angoisses des adultes. Ça prend toute la place et une phrase d'adulte peut avoir des répercussions sur les enfants. Donc, c'est vraiment reconnecter à l'enfance pour ensuite pouvoir parler de nos enfants ou des enfants de notre entourage ou de nos élèves.
Et qui étais-tu, enfant ?
Enfant, eh ben, on m'appelait Sacrée Petite Marie. J'étais une enfant avec un caractère trompé, mais à la fois réservée de prime abord avec les inconnus, un petit peu autoritaire avec mes copains de classe et mes frères et sœurs. J'avais la joie de vivre, mais je me posais énormément de questions sur le monde des adultes. J'étais très pressée de devenir adulte, d'avoir des responsabilités, d'avoir du courrier à mon nom. Et en fait, j'écrivais déjà énormément. Pour écrire ce livre-là, Élevé en plein air, j'ai relu tous mes journaux intimes et j'en ai une sacrée pile. Je voulais laisser des traces, en fait. J'avais très peur de m'oublier une fois adulte. C'était vraiment une angoisse. Je me disais, j'espère que je n'oublierai pas mes rêves. Voilà, j'étais un peu connectée au futur déjà, en fait.
Et est-ce que tu étais déjà passionnée par le monde de l'éducation ?
Bah, en fait, j'ai toujours voulu être enseignante. Quand j'étais petite, j'ai aligné mes doudous dans ma chambre et je préparais des petites évaluations que je leur faisais faire, je leur donnais des prénoms. Je savais que je voulais être enseignante. Ouais.
Comment est-ce que tu as vécu ta scolarité ?
Je me sentais un peu seule, en fait. J'avais l'impression que les enfants, ils étaient immatures pour avoir... Je me mettais un petit peu à l'écart parce que j'aimais beaucoup les observer, mais j'avais l'impression que de pas être vraiment comprise par les enfants de mon âge. Et en fait, je m'y retrouvais ni dans le monde des enfants ni dans le monde des adultes parce que quand j'essayais de parler aux adultes, je n'étais qu'une enfant. Et du coup, les adultes... Alors aujourd'hui, c'est rigolo parce que c'est moi qui me retrouve dans la position où je demande parfois à mes enfants de rester entre enfants aussi, parce que quand on invite des amis à la maison, on a envie de parler entre adultes et de choses d'adultes, en fait, qui concernent pas les enfants. On n'a pas forcément envie qu'ils participent à la discussion parce que c'est vraiment des discussions d'adultes, politiques ou quoi que ce soit. Mais moi, j'avais envie d'écouter, j'avais envie de participer, mais je sentais que j'étais trop petite pour les adultes et peut-être psychologiquement un petit peu incomprise par les enfants. Donc pendant mon enfance à l'école, j'étais souvent seule, en fait. Non pas que j'étais rejetée, mais en fait j'aimais observer les petits groupes et du coup quand c'était la récréation je m'asseyais sur le banc et je regardais ce qui se passait.
Et alors maintenant on va parler de ton cheminement vers ton métier de professeur des écoles, puisque comme tu le dis, l'éducation, les enfants, ça a quand même toujours eu une place particulière dans ta vie. Dans ton livre, tu dis « Je n'ai jamais vu autant d'enfants aussi meurtris par la vie », en parlant de tes premières années en tant que professeur des écoles. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette première expérience ?
Moi, j'ai fait mes études pour devenir enseignante à Lille. Et en fait, je me sentais théoriquement très forte. J'ai le concours haut la main, j'ai énormément travaillé pour l'avoir. Et donc du coup, j'avais un petit peu en tête tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait dire. On avait une matière qui s'appelait éthique et responsabilité. Et du coup, j'avais l'impression d'être parée à tous les événements, à tous les types de problèmes possibles. Et quand j'ai eu ma première affectation, c'était dans les quartiers sud de Lille, des quartiers plutôt défavorisés, socialement défavorisés. Avec des enfants qui vivent dans une misère sociale, qui ont des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Et en fait, je me suis rendu compte que toute la théorie, elle me servait à rien parce que dans les faits, je me sentais complètement nulle, humainement nulle. J'ai eu à faire face dès la rentrée à des situations d'enfants frappés par leurs parents, d'enfants qui manquaient de nourriture à la maison, d'enfants qui n'étaient pas soignés, pas lavés, d'enfants en situation de handicap. Et en fait, tout ça, moi, j'ai passé mon été à préparer mon année, hein, comme tous les professeurs stagiaires le font. Et finalement, je me suis dit, je m'attendais pas à ça. Alors, je fais pas partie d'une classe sociale favorisée. Enfin, j'ai eu mon père qui travaillait dans le milieu agricole et ma maman, assistante maternelle. Et du coup, voilà, juste un milieu social plutôt moyen. Mais j'habitais dans une petite ville et j'ai jamais fréquenté dans ma vie les milieux sociaux très défavorisés. Ce qui fait que je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque parce que j'étais très mal à l'aise, que je me sentais d'un seul coup projetée dans un monde que je ne connaissais pas. Bien que j'ai vraiment galéré financièrement pendant mes études, j'ai dû travailler dans la restauration rapide, etc., pour me payer mes études, mais je savais pas quoi faire en fait. Je me sentais humainement très faible. Il y avait des enfants qui étaient en foyer, il y avait des enfants qui s'endormaient tellement ils manquaient de sommeil. Et du coup, j'étais toujours en réflexion en me disant mais ça j'ai pas appris, je sais pas comment on fait avec eux. S'ils s'endorment sur la table, est-ce que je dois les laisser dormir parce qu'ils manquent de sommeil, ou est-ce que je dois les forcer à faire leur évaluation parce que sinon c'est la bonne excuse, ils vont s'endormir à chaque fois qu'il y a une évaluation, comme ça ils les font pas. Mais j'ai quand même des bulletins à remplir. En fait, j'étais tout le temps un petit peu entre deux chaises, quoi. Je me disais il y a l'enfant et il y a l'élève, et moi je suis enseignante, donc je suis là pour l'élève et pas pour l'enfant. Et pendant toute la première partie de ma carrière, je dissociais les deux, comme on apprend quand même à le faire quand on se forme. En fait, il y a l'élève et il y a l'enfant, et à l'école, c'est un élève et on doit le faire devenir un citoyen responsable. Donc voilà, c'est pour ça, c'était une claque, hein. C'était une vraie claque quand j'ai démarré dans le métier.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses à changer dans la formation que tu as suivie pour être mieux parée à ce type de situation dans laquelle beaucoup d'enseignants se retrouvent ?
Moi, j'ai eu une formation riche et extrêmement poussée et bonne avec des formateurs vraiment géniaux. Donc, je pense que ce qui manque, fondamentalement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de stages. Parce qu'en fait, alors la formation, elle a beaucoup évolué, hein. Moi, j'ai eu mon concours en 2012. Elle a déjà évolué, mais il manque énormément de stages. Quand on devient fonctionnaire stagiaire, donc la première année, on est un peu suivi, mais pas du tout suffisamment, et par des enseignants qui eux-mêmes ont une classe et eux-mêmes sont surchargés. Donc j'aurais voulu aller beaucoup plus dans les classes avant, quoi.
Et comme tu le disais, cette première partie de carrière, tu l'as vécue un peu comme un désenchantement, j'ai l'impression. Tu dis même dans ton livre, je deviens une enseignante qui ne ressemble pas à celle que je rêvais de devenir. Tu rêvais de devenir quel type d'enseignante pendant cette première partie de carrière et à la suite de ta formation?
Mais en fait, pendant tout le début de mon livre, c'est aussi pour ça que je voulais parler de l'enfance, c'est que je me suis fait beaucoup de promesses quand j'étais petite, des promesses que j'ai gardées en moi et que j'ai aussi écrites. Je m'étais dit, en regardant ma mère, moi je serais pas comme ça, moi je serais comme ça et je me promets de devenir comme ça. Et en regardant mes enseignants, moi je me promets de pas être comme ça. Je veux être ça. En fait, je voulais être une enseignante qui prend en compte les besoins de chaque élève, qui les considère comme des enfants à part entière et qui leur laisse de la place, qui leur laisse la possibilité de trouver leur nature profonde, d'exprimer leur potentiel, etc., d'être eux-mêmes. Et en fait, désenchantée, oui, parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte que une fois devenue adulte, une fois devenue maîtresse, mais en fait, il y a tellement de choses à penser dans la forme avant de s'occuper du fond. J'ai été complètement déboussolée par la charge administrative, la charge des réunions, la charge des préparations, la charge des papiers à remplir, des bulletins, des parents à rencontrer. C'est incroyable le nombre d'heures qu'on passe à remplir des dossiers et à faire des réunions et à remplir des papiers pour faire des projets. Ce qui fait que une fois qu'on a fait tout ça, on a une telle perte d'énergie que, en fait, c'est terrible, mais les enfants, on est déjà épuisés, en fait. C'est tellement énergivore que quand ils arrivent et qu'ils ont perdu leur baume à lèvres et que c'est un monde pour eux, parce que leur maman leur a demandé de faire extrêmement attention au baume à lèvres, parce que le baume à lèvres, il est tout neuf et que ça fait déjà deux fois que tu le perds. Donc eux, pour eux, c'est une angoisse terrible. Mais moi, c'est ma récré. J'ai envie de souffler. J'ai entendu les enfants crier pendant une heure et demie. Et là, j'ai envie de prendre une pause. J'ai envie de prendre mon café. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Et les histoires de baume à lèvres. Et c'est difficile pour moi parce que j'ai pas oublié à ce moment-là que je m'étais promis des choses et j'arrive pas à tenir mes promesses. J'arrive pas à être l'enseignante que je voulais être.
Ouais. À quel moment dans ta carrière t'as réussi à effectuer cette bascule, justement être l'enseignante que tu rêvais de devenir ?
Et ben justement, dans la forêt. J'avais déjà commencé à reconnecter avec mes élèves parce que j'avais un projet écologique dans l'école et on avait un potager. Et en fait, je pense que la bascule, elle s'opère au moment où on laisse l'élève être un enfant. Devenir maman, ça m'a aussi beaucoup aidée à opérer la bascule, quoi, parce que moi-même, j'emmenais mon petit à l'école. Donc après, quand j'allais à l'école, c'est comme si j'avais devant moi 27 petits Marcel, quoi. Donc j'essayais d'être l'enseignante pour eux, que je rêvais d'avoir pour mon fils. Et c'est sûr que ça a beaucoup changé ma vision des choses, mais c'est certain que le jour où j'ai emmené mes élèves en forêt, la bascule s'est opérée et j'ai réussi à tenir ma promesse.
Ouais. Tu peux nous parler de cette découverte de l'enseignement dans la forêt, comment ça s'est passé et comment ça s'intègre maintenant dans ta pratique au quotidien ?
Alors, en fait, on avait organisé pour toutes les grèves mondiales pour le climat, on avait organisé des événements qui s'appelaient des kermesses écologiques. Donc, c'était des journées de fête à l'école où il y avait des petits ateliers et les élèves apprenaient à faire des semis, à désherber le potager, à jouer à des jeux de société, à faire des petits jeux sportifs où on apprenait à trier, du land art, etc. Donc il y a un jour où on a fait ça et on a terminé la kermesse écologique en allant en forêt et en ramassant des déchets sur le sol. Et là déjà, pouf, j'ai eu un petit truc dans ma tête où je me suis dit « Ouh, il y a une forêt à côté ». Et puis, quelques mois après, on a dû faire un hommage à la liberté pour Samuel Paty. Et ce jour-là, j'arrivais à l'école, j'avais rien préparé. Et on devait lui rendre hommage. Et là, la connexion s'est refaite. J'ai emmené mes élèves en forêt pour la première fois. On a médité, on a fait un jeu sportif. Ils voulaient pas partir. Donc, en fait, le jeu mathématique que je devais faire en classe, je l'ai réadapté, j'ai improvisé une réadaptation dans la forêt. Et ils voulaient toujours pas partir, donc on a fait anglais en forêt. Et ensuite, on est rentré pour l'heure des parents. Et le lendemain, ils m'ont dit « Oh, maîtresse, on y retourne en forêt, on pourrait travailler en forêt. » Et donc, voilà, j'y suis retournée encore une fois. Et ensuite, ils ont voulu y retourner, on est retourné. Et petit à petit, j'ai reconnecté. En fait, j'ai d'abord reconnecté à moi. Donc c'est ça qui est hyper important dans mon livre, c'est que c'est pas un livre uniquement pour les enfants, pour la place de l'enfant, mais c'est pour la place de l'adulte également, et c'est valable pour finalement n'importe quel métier. Je pense que pour laisser de la place aux autres, il faut d'abord trouver la nôtre. Et c'était vraiment génial pour moi de faire de l'écologie à l'école et de les emmener en forêt, parce que c'était les lieux que je préférais fréquenter dans ma vie, à la maison, avec mes enfants, et je savais faire. Donc en fait, moi, j'étais plus seulement enseignante, j'étais Marie à l'école. J'avais un peu enlevé de la forme, j'avais un peu enlevé du statut, parce que j'étais aussi la directrice de l'école, et je pouvais être moi-même. Ce qui fait que la relation avec mes élèves, elle changeait, parce que j'étais pas seulement Madame Petit, j'étais aussi Marie. Et ces récrés où je passais avant mon temps à dire « Oh, c'est bon, laisse-moi tranquille, j'ai envie de boire mon café. Oh là là, c'est bon, allez, vos histoires. Hein. » Et ben là, c'était tellement différent parce que dans la forêt, déjà, j'étais toute seule. Il n'y avait jamais d'accident parce qu'en fait, le sol de la cour de récré, il est en béton et il n'y a absolument rien à faire. Mais là, dans la forêt, Mais en fait, comme c'est un espace de création infinie d'histoires, de potions de sorcières, on peut imaginer des personnages, on peut construire des cabanes, mais plus jamais aucun élève ne venait. Et j'étais avec mon ATSEM et ma service civique. Et en fait, c'est pas qu'on s'ennuyait, mais on s'asseyait sur un tronc d'arbre et on les regardait et on rigolait. On les écoutait parler, on les écoutait faire leurs histoires, inventer leurs personnages, on regardait tout ce qu'ils faisaient, on était émerveillés. Donc j'ai vraiment reconnecté avec eux, et eux, ils étaient eux-mêmes, beaucoup plus que dans une cour de récré stérile. Je voyais vraiment les personnalités se dessiner, les petits chefs de groupe, mais aussi les timides, qui n'étaient pas si timides que ça en récré. Je voyais beaucoup plus les filles et les garçons jouer ensemble que dans l'espace d'une récré où des études ont montré que les garçons prennent 80% de l'espace et les filles ont tendance à se mettre près des murs et dans les petits coins pour jouer à la maman. Là, c'était beaucoup plus mixte les groupes d'enfants. Et du coup, ça faisait très plaisir à voir. Et là, à ce moment-là, je me suis dit « Waouh, bah là, t'as tenu ta promesse ».
Il y a un autre moment dans le livre que j'apprécie beaucoup, c'est quand tu parles en effet de ta vie de famille, parce qu'on voit que ça t'a quand même beaucoup porté vers ce cheminement. Et tu parles aussi des confinements que tu as vécu, où tu as particulièrement observé tes propres enfants. En quoi l'observation de tes enfants t'a aussi mené vers cette nouvelle pratique d'enseignement ?
En fait, le confinement, il a permis un petit ralentissement de rythme à la maison. Au moment du confinement, j'ai mes jumeaux qui ont 1 an et demi, et Marcel qui a 4 ans et demi. Et juste avant, en fait, j'ai la vie d'une enseignante, d'une directrice, et j'arrête pas de courir tout le temps. Et j'ai finalement peu de temps pour me connecter à ce qu'ils sont, à leurs petites âmes, quoi. Et le confinement, il a permis de dire stop et de prendre le temps. Et on avait un petit jardin de 200 mètres carrés. Et en fait, on a remarqué avec mon mari que dans l'espace du jardin, nous-mêmes, on n'avait pas les mêmes réactions, la même énergie. Et on leur laissait une place très différente à l'extérieur. C'est-à-dire que, en fait, on s'est dit, à l'extérieur, il y a rien à penser. Il n'y a pas de boîte, il n'y a rien à ranger, rien n'est jamais déballé. Au confinement, on passait énormément de temps en forêt avec les enfants. Et c'est vraiment un temps qui fait du bien aux adultes et aux enfants. Et c'est presque comme si les adultes reconnectaient aussi avec leur âme d'enfant, parce que finalement, c'est vraiment l'éclate, même à 33 ans, de faire des cabanes avec les enfants dans les bois. On reconnecte avec l'âme d'enfant et il y a moins ce rapport grand adulte et petit enfant, on joue ensemble.
Dans ton livre, tu dis « Cette expérience d'école en forêt avec mes élèves m'a redonné foi en mon métier ». Est-ce que tu penses que maintenant, le métier d'enseignant, de directeur d'école, il se doit de passer ce temps en extérieur ?
Ben oui, parce que le statut... les statuts, que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, le statut de directeur, le statut d'enseignant, le statut d'élève, il y a besoin de cadres, hein. Bien évidemment que les élèves font pas tout ce dont ils ont envie, et de toute façon ils le font pas, et les adultes non plus, mais on a besoin de remettre de l'humanité dans notre métier. Et ce qui a été extrêmement difficile ces dernières années, en tout cas je parle pour moi et des collègues avec qui j'ai partagé cette drôle d'expérience, mais pendant le confinement on avait cette position qui était pas forcément simple, de devoir appliquer des choses avec lesquelles parfois on n'était pas forcément d'accord. Et en fait, en tant que fonctionnaire de l'État, on a un droit de réserve, ce qui est tout à fait normal. Mais c'était encore plus difficile pour nous à ce moment-là, parce que on devait porter des masques, et ça nous coupait la communication avec les enfants, avec les parents, avec les émotions, etc. Mais en fait, le statut, c'est pareil. Le statut, c'est comme un masque qu'on met sur une tête, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Et en fait, si on manque d'authenticité, si on incarne si on n'incarne pas qui on est, ben on n'inspire pas l'authenticité non plus. Donc si on est faux, on va faire des enfants qui sont faux.
J'aimerais que tu nous partages les quelques conseils que tu as à donner aux enseignants qui nous écoutent, mais même aux parents en fait, hein, qui souhaitent être plus inspirés dans leur sortie avec leurs enfants. Qu'est-ce que tu conseilles ?
Ben déjà de sortir, d'ouvrir la porte, parce que ça paraît peut-être un petit peu... tout dépend qui nous écoute, mais ça peut paraître un peu fou et on peut se dire « Oh là là, c'est bon !» Mais en fait, non. En fait, il faut sortir pour s'en apercevoir, parce qu'on vit dans un monde quand même qui est fait de boîtes. C'est Pierre Rabhi qui disait ça. En fait, on vit dans des boîtes. Les maisons, les voitures, les entreprises, les boîtes de nuit, puis la dernière boîte, quoi, le cercueil. Et on ne peut pas s'élever dans les boîtes. Donc, il faut sortir, en fait, pour s'apercevoir que on est humain. Et humain, ça vient d'humus, à la base, la terre. On fait partie d'un écosystème. Et pour reconnecter à qui on est profondément, il faut sortir. Il faut sortir parce que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien parce que c'est la nature et ça nous permet de... Le mot nature, pour moi, il a vraiment ce double sens de la nature profonde. Et c'est la nature qui nous permet d'accéder à notre nature profonde parce qu'on est des humains, on fait partie de ce monde de nature. Et tout le reste a été créé, en fait. Mais foncièrement, on n'est pas fait pour être toujours à l'intérieur. Et on cherche toujours à occuper les enfants dans la maison pour avoir la paix. Et ben la solution, c'est juste d'aller en forêt. Parce qu'en forêt, au bout de quelques minutes, ça y est, l'enfant il va connecter et il va commencer à créer, s'inventer des personnages. Allez-y avec des amis et vous allez voir, vous aurez jamais autant de temps pour boire un café ou une tisane entre parents.
On va garder un petit moment promo quand même pour que tu nous parles de tout ce que tu fais et surtout pour que nos auditeurs puissent retrouver tout ce magnifique contenu et partage que tu fais au quotidien. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça avant qu'on se quitte ?
Alors, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Colibri et après », qui parle de mon parcours de quand j'étais pas du tout écolo. Il y a même un petit chapitre sur l'école dans la forêt. Ça parle de petits gestes à faire au quotidien et comment rassembler en fait pour sortir de ce petit colibri et faire une armée de petits colibris. J'ai ensuite écrit Élevé en plein air, donc je l'ai écrit cet automne et cet hiver et il est sorti le 10 mai. Ensuite, j'ai mon compte Instagram Mes petits écolos sur lequel je partage des idées d'activités à faire en plein air. Et du contenu aussi pédagogique, donc comment faire apprendre un enfant dehors, en tant qu'enseignante, aussi en tant que parents qui font l'instruction en famille, et aussi pour tous les parents l'été. Donc j'ai créé mon auto-entreprise il y a 10 mois. Donc j'ai commencé à créer des cahiers de vacances dehors. Ce ne sont que des jeux, en fait, à faire pour calculer, pour apprendre l'orthographe, pour apprendre la conjugaison, pour apprendre pour les maternelles à faire des traces, du graphisme. Voilà, donc ça, c'est des petits cahiers de vacances dehors. Et ensuite, pour aider les enseignants à mettre en place des séances d'école dehors, j'ai, à la suite de l'écriture de ce livre-là, j'ai eu beaucoup de demandes de séances, parce que les enseignants, je sais ce que c'est, ont pas le temps de la création et ont pas toujours les idées non plus. Donc à la fin du livre Élevé en plein air, il y a déjà des idées d'activités. Donc par exemple pour apprendre une poésie là, avec les illustrations de Virginie Blondeau. Donc j'ai créé un e-book, c'est 40 activités de plein air avec des jeux traditionnels qu'on peut faire dans une cour de récré, à la plage, en montagne, en forêt. Et en fait ça permet de faire un entre-deux entre la classe et les livres d'école dehors qui existent déjà, mais qui sont très poussés vers l'enseignement par la nature, ce qui est vraiment pour moi l'objectif à terme. Mais en tout cas, ça permet de faire un entre-deux entre la classe et fabriquer une flûte avec un bâton ou fabriquer une cabane, faire des... Voilà, tout ça, c'est génial. Mais pour moi, ce qui était important de faire, c'est pas de sortir un énième livre de classe dehors, c'était de donner des outils pour tous les enseignants, que ce soit en maternelle, en élémentaire, à la campagne, en ville, dans des milieux sociaux favorisés ou défavorisés, de par mon expérience, en fait, je voulais que ce soit des activités faisables par tous et pour tous les enfants, en fait.
C'est super complet et en tout cas, on partagera tous les liens en description de ce podcast. Merci beaucoup, Marie, pour ton
temps. Merci à vous.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaies.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de Demain.